Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Alors je continue donc le parcours de l'évangile de Marc. On est presque au bout. On est presque au bout et la dernière fois donc on a vu l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il a été trahi par Judas. Il a été abandonné de tous. Et ce qu'il avait annoncé d'ailleurs, il n'était pas pris par surprise, lui-même le savait. Et donc nous voilà ici, après son arrestation, dans le procès qui va suivre, on est dans la nuit qui précède les sacrifices des agneaux de Pâques, donc en pleine fête de Pâques. Donc je vous invite à reprendre l'évangile de Marc à partir du chapitre 14, à partir du verset 53. Chapitre Marc 14, 53, et je lirai jusqu'au verset 72. Marc 14, 53. Et je vais prier avant cela. Père Céleste, nous te remercions encore pour avoir accompli ton plan dans ton Fils Jésus. Seigneur, aide-nous à le contempler, Seigneur, à saisir pleinement, Seigneur, tout ce qui s'est passé, Seigneur, dans ce jardin et ensuite tout ce qui a précédé sa mort et bien sûr sa mort et sa résurrection pour nous. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle agisse dans notre vie, à chacun. Seigneur, tu as une parole pour chacun d'entre nous, que nous la saisissions, que tu disposes nos cœurs à la recevoir et que, Seigneur, elle change notre vie, Seigneur. Merci de faire ton œuvre en nous, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais donc lire Marc 14, 53 jusqu'au verset 72. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. » Et même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ ?» Le Fils du Dieu béni ? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble ? Tous le condamnèrent comme passible de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, devine. Et les gardes le reçurent avec des gifles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda en face et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ». Il le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire ». Puis il sortit pour aller dans le vestibule. La servante le vit et se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Il est de ces gens-là », il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, toi aussi tu es de ces gens-là, car tu es galiléen et tu parles comme eux. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Alors il se mit à pleurer. Amen. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. J'ai intitulé mon message « La vérité sacrifiée ». La vérité sacrifiée, parce que eh bien, c'est la vérité centrale qui ressort de ce texte, qui pour moi se ressort. La vérité a été sacrifiée pour faire de nous, les croyants, pour faire de nous les témoins de la vérité. La vérité a été sacrifiée pour faire des croyants des témoins de la vérité. Et c'est ce que je vous propose de voir. Donc, Donc là, on est dans le procès de Jésus. Hein. Il y a deux scènes qui se jouent, hein, le procès de Jésus et le reniement de Pierre. Nous verrons premièrement, eh bien, il est question de beaucoup de témoins dans ce texte. Nous verrons premièrement les faux témoins. Deuxièmement, nous verrons quel était le témoin absent. Et troisièmement, nous verrons qui est le vrai témoin. Donc premièrement, voyons les faux témoins dans ce projet procès religieux. Voilà donc après son arrestation, Jésus qui se retrouve donc devant le Sanhédrin, le conseil religieux, dans son procès. Le Sanhédrin qui veut l'accuser. Le Sanhédrin qui veut en finir avec Jésus, clairement. Et qui veut le faire condamner à mort. Et puis donc, une autre scène qui se joue en parallèle, Pierre, l'apôtre Pierre qui suivait Jésus de loin, jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Il s'est approché. Le Sanhédrin, c'était le grand conseil religieux de Jérusalem. Il était composé de quelques 71 membres, des scribes, des anciens, des sacrificateurs, donc des gens religieux. Et ce conseil était présidé par le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, lui, il avait déjà décidé, il faut en finir avec Jésus. Il avait déjà décidé, avant qu'ait lieu le procès, de faire condamner à mort Jésus. Rapidement, le plus vite possible. Parce qu'il était jaloux de lui. Dans un simulacre de procès. Parce que ici, pourquoi c'est un simulacre? Parce que le Sanhédrin fonctionne dans un mépris total de ses propres règles. Le Sanhédrin ne devait jamais se réunir de nuit, ni pendant les fêtes juives. Alors là, on est en pleine nuit, la nuit de la Pâque, la fête de Pâques. Le Sanhédrin ne devait bien sûr pas soudoyer des faux témoins qui devaient faire des faux serments. Et le Sanhédrin ne devait pas non plus prononcer une peine capitale avant le délai d'une nuit. Toutes ces règles sont enfreintes par le conseil religieux. Sanhédrin. Des faux témoins, donc des faux témoins qui ont été soudoyés par les prêtres, par le souverain sacrificateur. Ces faux témoins, bien évidemment, ils n'ont pu produire que de faux témoignages qui se contredisaient les uns les autres en déformant les paroles du Christ. Verset 58, voici ce qui est dit. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. Alors là, ils ont déformé les paroles de Jésus. Jésus parlait non pas du temple de Jérusalem, mais il parlait du temple de son corps. C'est le temple de son corps qui n'a pas été fait de la main de l'homme. Le temple de Jérusalem a été fait par la main de l'homme. Les faux témoins confondent volontairement le temple et le corps de Jésus. Jésus avait dit, c'est vraie parole, en Jean 2, 19, il avait dit ceci. En parlant de son corps, il avait dit « Détruisez ce temple, il n'est pas dit fait par la main de l'homme, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Alors donc, des faux témoins, des faux témoignages qui ne concordent pas, on peut même dire un déferlement de mensonges contre Jésus. La vérité a été sacrifiée. La vérité a été sacrifiée, et pourtant Jésus ne se défend pas. Ce qui étonne le souverain sacrificateur, d'ailleurs. Jésus ne se défend pas. Il n'essaie pas de rétablir la vérité devant tant de mensonges, devant les dires contradictoires des faux témoins. Alors, devant le silence de Jésus, le souverain sacrificateur s'adresse à Jésus et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garde le silence. Pourquoi est-ce qu'il garde le silence? N'importe quelle personne normalement constituée se serait défendue pour rétablir la vérité. Mais pas Jésus. La réponse, elle va venir... On va même comprendre pourquoi Jésus a gardé le silence. En tout cas, déjà, on peut dire, Jésus gardait le silence parce qu'il comptait sur Dieu son Père pour le défendre. Il comptait sur Dieu son Père pour le défendre. Et Jésus gardait le silence parce que tout ce qui se produisait là n'était pas une surprise. Tout ce qui se produisait là, jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, c'était écrit dans les Écritures. Et les Écritures, la parole de Dieu, c'est pas n'importe quel livre là, la Bible, la parole de Dieu, les Écritures étaient en train de s'accomplir. Et Jésus savait que les Écritures s'accomplissaient. Un psaume, d'ailleurs, nous fait penser à Jésus. Le psaume 27, chapitre 27, verset 12, on lit ceci, qui s'applique à Jésus. « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Un psaume qui s'applique à Jésus. Et puis aussi, Jésus, il ne se défend pas contre de tels mensonges. Et là, Jésus, vous vous rappelez, sur le serment de la montagne, il avait dit ceci en Matthieu chapitre 5, verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Jésus avait déjà exhorté la foule des disciples, si on dit du mal de nous, heureux serez-vous. Jésus ici ne s'est pas plaint de ce qui se passait. Il a été lui-même l'objet de faux témoignages. Il était en train d'accomplir ce qu'il prêchait sur le sermon sur la montagne. Et bien sûr, la raison pour laquelle Jésus ne se défend pas, c'est qu'il comptait sur son Père pour le défendre. De quelle manière? Pas la manière dont on aurait imaginé. Alors, devant le silence de Jésus, vient la deuxième question du souverain sacrificateur. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Autrement dit, Jésus est-il oui ou non le Messie? Et là, Jésus rompt le silence. Il ne peut pas rester silencieux. Jésus répond oui. Pourquoi ne garde-t-il pas le silence ici, alors qu'il l'a gardé tout à l'heure? Eh bien, parce que ici, devant cette question, il s'agit pour Jésus de témoigner de son Père et de dire la vérité sur son Père. Et là, il ne peut pas garder le silence. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le seul témoin venu révéler Dieu le Père, venu le révéler aux hommes. Et Jésus ne pouvait pas garder le silence parce que la loi, qu'il a parfaitement accomplie, dit ceci, la loi mosaïque dit en Lévitique chapitre 5, verset 1, lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de ses fautes. Un témoin devait dire la vérité. Et Jésus, là, il ne peut pas garder le silence parce qu'il est venu témoigner de son Père. Il est le seul témoin de son Père. Et là, il parle. Il dit oui. C'est pas de la fausse humilité. Il dit la vérité. Et Jésus rajoute même, pour ôter tout doute sur sa divinité, qu'il reviendrait en gloire. Lui, le Fils de l'homme, Dieu fait homme, assis à la droite de Dieu venant sur les nuées du ciel. Et là, Jésus cite encore, les Écritures dans le livre de Daniel, l'Ancien Testament, chapitre 13, 7, verset 13, que je vous lis. Jésus cite donc les Écritures, et là, c'est Daniel qui parle. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours. » Et on le fit approcher de lui. Un Fils d'homme qui s'avance vers l'Ancien des Jours, c'est-à-dire vers Dieu lui-même, l'Ancien des Jours. Et Jésus, il applique cela à lui-même. C'est lui le Fils de l'homme. Et Dieu a foi. Alors face à cela, souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire son vêtement parce qu'il considère cela comme un blasphème. Il déchire son vêtement alors que le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de déchirer son vêtement. D'après encore la loi mosaïque, Lévitique 21, verset 10, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Le sacrificateur est en train d'enfreindre la loi mosaïque qu'il était censé connaître. C'est clair que là, le souverain sacrificateur laisse apparaître toute sa haine contre Jésus. Il en oublie même la loi. C'est clair que son zèle pour accuser Jésus lui fait oublier la loi. Lui qui était le mieux placé pour reconnaître en Jésus le Messie, eh bien il le rejette radicalement. Et quand lui le rejette, tout le Sanhédrin le rejette aussi. Verset 64, c'est tous unanimement qui vont condamner Jésus à mort. Mais à ce niveau-là, Israël était occupé par les Romains. Le Sanhédrin n'avait pas le pouvoir de tuer Jésus. Il fallait que ce soit le pouvoir civil, donc le pouvoir romain, qui accomplisse la peine de mort. Ça sera, c'est prévu pour la suite du texte avec Pilate. Jésus donc a été condamné à mort, non pas sur les fausses accusations des faux témoins, mais sur ses propres dires, sur ses propres paroles qui sont la vérité. Il a été condamné à mort, la vérité a été sacrifiée. Et là, eh bien, on est devant une attitude qui montre qu'il n'y a pas de neutralité face à Jésus. Il n'y a pas de neutralité. Soit on croit que Jésus est le Messie, soit on le rejette avec toutes les conséquences. Il n'y a pas de neutralité quand on a entendu l'Évangile. Soit on le rejette, et là c'est ce qu'on fait le Sanhédrin, le conseil religieux. Ce sont des religieux là, regardez ce qu'ils font. Il y a un déchaînement de violence contre celui qui est le prince de la paix, contre Jésus. D'avoir rejeté Jésus va libérer en eux les plus mauvais instincts chez des gens pourtant religieux, le Sanhédrin, les serviteurs même du temple. Des crachats, des coups de poing, des gifles de leur part envers Jésus, le prince de la paix. Ils se moquent de lui. Ils l'appellent à faire le prophète. Devine ! Devine qui t'a frappé. Les yeux bandés. Alors que Jésus est plus qu'un prophète. Il est la vérité. Il est plus qu'un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Lui, il est la parole de Dieu. La vérité a été sacrifiée par un mauvais chef, suivi de tous ceux qui l'ont suivi, de tous ceux qui sont présents. Tout le Sanhédrin a suivi. Alors, pour nous, attention à ne pas suivre des mauvais chefs, mais à placer la parole de Dieu en premier, dans toute notre vie. Et là, eh bien, Jésus se laisse faire. Et il se laisse faire devant une violence physique. Il se laisse faire, il ne réplique pas. Pourquoi ? Parce qu'il est faible. Oui, il est faible, mais Dieu aurait pu arrêter cela. Jésus se laisse faire pas par impuissance, mais parce qu'il accomplissait là encore les Écritures qui avaient prédit ce qui allait lui arriver. Il l'avait prédit très clairement, et je vais lire Ésaïe chapitre 50, les versets 6 à 9. Ésaïe chapitre 50, les versets 6 à 9. Et là, il s'agit du portrait de Jésus. Voici ce qu'il est dit dans Ésaïe, qui a été écrit près de 700 ans avant que Jésus n'arrive, avant que Jésus ne vienne. Le livre d'Ésaïe 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Celui qui me justifie est proche. Qui veut entrer en procès contre moi ? Affrontons-nous. Qui s'oppose à mon droit ? Qu'il s'avance vers moi. Voici que le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Qui me condamnera ? » Jésus, tout en étant Dieu, Dieu fait homme, il comptait sur Dieu pour le défendre. Même si Dieu a permis qu'il passe par toute cette maltraitance, tous ces coups. Et là, vous avez remarqué, Jésus est seul. Aucun disciple ne vient témoigner au procès pour défendre Jésus. Jésus est seul. Et pour cause, tous les disciples ont fui. Vous vous souvenez, dans le jardin, ils ont tous fui. Jésus, dans ce procès, n'a pas eu d'avocat de la défense. Le seul qui aurait pu apporter un témoignage véridique, qui n'était pas très loin face à tous ces faux témoignages, oui, il était dans la cour du souverain sacrificateur, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui le suivait. Il le suivait, mais de loin, nous dit le texte. De loin. Et voyons donc ce qui s'est passé donc dans la cour du souverain sacrificateur en parallèle de ce procès. Mon deuxième point, donc le témoin, celui qui aurait pu être un témoin mais qui est absent, le témoin absent. Il n'y a pas que tout le Sanhédrin qui a décidé d'en finir avec Jésus. Il y a aussi sa servante. Sa servante, elle est présente dans ce qui se passe avec Pierre. Verset 66. La servante du souverain sacrificateur va persécuter le serviteur de Jésus, Pierre. La servante va persécuter le serviteur. La servante suit son mauvais maître, le souverain sacrificateur. Le disciple suit son bon maître, Jésus, mais de loin. Pierre, d'abord enthousiaste, vous vous rappelez, trop sûr de lui, se croyant incapable de renier son Seigneur, jamais je ne te renierai. Puis Pierre qui a lâché Jésus avec les autres disciples dans le jardin de Gethsémani, qui a fui avec les autres, puis qui a suivi Jésus, mais de loin. Il s'est assis dans la cour du souverain sacrificateur. Il s'est assis au milieu de ses ennemis, comme pour passer inaperçu. Il s'est mélangé à eux. Mais de cette manière-là, il s'est exposé, Pierre. Il a suivi Jésus, mais de loin. Suivre Jésus, mais de loin, ouvre la porte à la tentation et à l'échec. Il a suivi Jésus de loin, pourquoi ? Parce qu'il comptait sur ses propres forces, au final. Il comptait sur lui-même, au lieu de compter sur Dieu. Suivre Jésus de loin ne suffit pas. Alors donc, voilà la servante du souverain sacrificateur, qui reconnaît une première fois, en pleine nuit, l'apôtre Pierre, pour avoir été avec Jésus. Ce à quoi Pierre lui répond qu'il ne sait pas, il ne comprend pas. Puis il sort. La même servante s'adresse cette fois à ceux qui étaient présents près de Pierre, leur disant qu'il est de l'entourage de Jésus, ce que Pierre nia pour la deuxième fois. Puis cette fois, ce sont les gens qui sont présents qui accusent Pierre d'avoir été avec Jésus, qui le reconnaissent à sa façon de parler. Et Pierre, là, se voit découvert. Il nie avec conviction et imprécation. Une imprécation, c'est se déclarer soi-même digne des punitions divines s'il ne dit pas la vérité. Voilà Pierre. Il n'est pas si différent de lui parfois. Quand on compte trop sur soi-même, on lui ressemble. Mais toutefois, faisons quand même une distinction entre le reniement de Pierre et le blasphème. Le reniement de Pierre n'est pas du blasphème, c'est plutôt un faux serment, fait sous l'effet de la peur qui l'a rattrapé. Et on connaît l'histoire, Pierre a été pardonné par Jésus, il a été restauré par Jésus. Son reniement, le reniement de Pierre, n'a rien à voir avec la trahison préméditée et calculée de Judas. Ça n'a rien à voir. Pierre sera effectivement restauré par Jésus. Jésus lui pardonnera quand il sera ressuscité. En tout cas, à ce moment-là, c'est la troisième fois qu'il renie son maître. Et qu'est-ce qui se passe ? Le coq chante aussitôt. Il chante aussitôt une première fois. Et le commentaire MacDonald dit, en parlant du reniement de Pierre, c'est comme si la création elle-même protestait contre le mensonge et la lâcheté de Pierre. Comme si la création elle-même protestait contre le mensonge et la lâcheté de Pierre. Et Pierre, ce chant du coq, ça a dû être comme une sonnerie à ses oreilles, un rappel de ce que Jésus lui avait dit. Tu ne me renieras pas. Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Et alors, Pierre, ce chant du coq lui a rappelé les paroles de Jésus, il s'est effondré, il a pleuré. Il réalisa qu'il n'avait pas cru son maître, qu'il avait contredit quand il a dit « Je ne te renierai pas ». Pierre n'a pas écouté son maître. Déjà ici, avant cette scène. Et puis aussi, Pierre n'avait pas écouté non plus Jésus quand il lui avait dit de veiller dans le jardin et de prier. Alors qu'il en était capable de veiller, parce que Pierre avait déjà veillé la nuit de la transfiguration, lorsque Jésus est apparu en gloire. Il avait très sommeil, mais il avait résisté. Alors oui, Pierre, là, il a échoué. Et la cause de sa défaite, eh bien, c'est qu'il a compté sur ses propres forces, sur sa propre chair, et que la chair est faible, nous dit le verset 38. Et là, eh bien, que se passe-t-il ? Le péché réclame son dû. Le péché réclame toujours plus, toujours plus. Et Pierre fait ici l'amère expérience des conséquences de ne pas accepter la parole du Seigneur. Il comptait trop sur lui. Pierre, vous vous rappelez, il a pourtant été le premier à reconnaître en Jésus le Messie, le Christ, à confesser que Jésus est le Christ. Il a été le premier. On aurait bien aimé que ce soit lui qui défende Jésus au procès. On aurait bien aimé qu'il se lève pour témoigner pour Jésus, lui qui avait confessé Jésus comme le Christ, face à tous ceux qui ont contredit, qui ont témoigné contre Jésus. Mais au lieu de témoigner, eh bien son témoignage a laissé la place au reniement. La vérité a été sacrifiée. Non seulement les faux témoins qui suivaient le faux sacrificateur ont fait de faux serments, mais l'apôtre Pierre, qui suivait Jésus de loin, a sacrifié la vérité en disant qu'il ne connaissait pas son maître. Cette fois, la vérité a été sacrifiée par un disciple. Et nous avons une exhortation pour nous. Le Seigneur est bon. Il nous avertit face à nos faiblesses, avant que survienne la chute. Fais attention. Le Seigneur est bon, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour nous apprendre à lutter contre le mal, à résister. Et avec son aide, on peut résister au mal. Et si nous ne voulons pas l'écouter en recevant humblement sa parole, eh bien, nous apprendrons quand même de lui, mais au travers de douloureuses expériences, face à l'ennemi de nos âmes. Jésus n'a pas eu d'avocat de la défense à son projet procès religieux. Pierre, le seul vrai témoin, il a brillé par son absence. Mais si Pierre avait été là, s'il avait témoigné, son témoignage n'aurait pas suffi. Son témoignage aurait été insuffisant. Et voyons pourquoi. Et qui aurait pu être le vrai témoin, même s'il était là ? Mon troisième point, le vrai témoin. Parce que derrière tous ces événements se cache celui qui est à la fois le témoin véritable, incontesté, incontestable. Celui qui est à la fois le témoin, celui qui est à la fois l'avocat de la défense et celui qui est à la fois le juge infaillible. Derrière tous ces événements se cache Dieu lui-même. Il était présent. Il s'agit de Dieu le Père. Si Jésus est Dieu, ce qui est le cas, le seul qui pouvait rendre témoignage de lui efficacement et le défendre, le seul qui aurait pu le défendre, c'est Dieu lui-même. Voilà le vrai témoin. Si Jésus est Dieu, le seul qui pouvait défendre Jésus, c'est Dieu. Voilà le vrai témoin. Dans un procès, la loi mosaïque demandait à ce qu'il y ait au moins deux témoins quand il y a une affaire. Jésus avait déjà rendu témoignage de lui-même par les miracles qu'il avait accomplis, que seul Dieu pouvait accomplir. Et il n'était pas tout seul, son Père témoignait aussi de lui. Jésus a dit en Jean, évangile de Jean, chapitre 8, verset 18, « Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Il y avait à la fois Jésus, ses œuvres, ses miracles, et son Père qui témoignait, qui a témoigné devant ceux qui étaient présents, que Jésus est son Fils. Or ici, Dieu a gardé le silence. Il n'a pas défendu son fils. Et on va mieux comprendre pourquoi. Il n'a pas défendu son fils, toutefois, le Père a quand même témoigné de son fils. Comment ? Par sa parole. Les Écritures, la parole de Dieu était en train de s'accomplir. On pouvait déjà y voir le témoignage du Père pour Jésus. Les Écritures étaient en train de s'accomplir concernant Jésus. Mais les chefs religieux qui étaient le mieux à même de reconnaître en Jésus le Messie l'ont rejeté et condamné à mort. Il n'y a pas de juste milieu. Si les chefs religieux avaient cru en Jésus, eh bien cela leur aurait enlevé toute jalousie à son égard. Parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec Jésus. Parce qu'il est le Fils de Dieu, le seul capable de faire des miracles et d'enseigner parfaitement comme Dieu. Alors il n'y a que deux possibilités face à Jésus. Soit être jaloux et vouloir sa mort, soit croire en lui et s'humilier. Il n'y en a pas d'autre. Jésus avait répondu à la question du souverain sacrificateur, « Es-tu le Christ ?» Il avait répondu parce qu'il l'est. Il a répondu oui. Si parmi ceux qui écoutent, il y en a qui doutent que Jésus est le Messie, eh bien, posez-lui la question, es-tu le Fils de Dieu ? Et je crois fermement qu'il vous répondra. Jésus a répondu au souverain sacrificateur. Et celui qui cherche, qui doute peut-être, qui n'est pas sûr que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, posez-lui la question, es-tu le Fils de Dieu ? Il vous répondra pourquoi ? Pourquoi est-ce je crois qu'il vous répondra ? Parce qu'il est venu témoigner de son Père. Son Père témoigne de Jésus. Jésus est venu pour révéler le Père. Il veut nous faire connaître le Père. Voilà pourquoi il se révèle à tous ceux qui le cherchent. Jean chapitre 1, verset 18, voici ce que l'apôtre Jean dit. « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus est venu pour faire connaître son Père. Celui qui le cherche, Jésus va le lui révéler. Ne pas croire en Jésus, c'est faire Dieu menteur. Dieu qui a témoigné de son Fils. Ne pas croire en Jésus, c'est sacrifier la vérité. Et c'est sacrifier Jésus de nouveau. Alors que devenir chrétien, croire que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, ce qui allait se passer après. Lorsqu'on devient chrétien, on le reçoit. On se reconnaît pécheur, on reconnaît qu'il s'est sacrifié pour nous. Et ça se traduit aussi par une confession orale quand on devient chrétien. Romains 10, verset 9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu confesses de ta bouche. Il est question de beaucoup de témoins dans ce passage. Peut-être, certainement, vous avez reçu la visite des témoins de Jéhovah, parfois. Quand j'étais en recherche, il y a très longtemps, j'avais passé une année avec eux, à étudier avec eux, jusqu'à ce que Dieu m'envoie quelqu'un pour me montrer leurs erreurs. Et leur principale erreur, c'est qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils nient la divinité de Jésus. On peut parler d'un témoin de Jéhovah. Jéhovah, c'est effectivement le nom qu'on trouve dans la Bible, certaines Bibles, quoique les Juifs ne prononçaient jamais ce mot par respect. On peut parler d'un témoin de Jéhovah. Il y en a un. Il s'agit de son fils, Jésus. Jésus qui est venu témoigner de son Père. Et nous alors? Eh bien, nous sommes appelés à être des témoins de Jésus. Nous sommes appelés à être des témoins de Jésus. Nous sommes appelés à témoigner de Jésus pour le faire connaître. Jésus a gardé le silence face aux mensonges des faux témoins. Pourquoi il a gardé le silence? Pour faire de nous ses témoins. Pour faire de nous ses vrais témoins, les témoins de Jésus. Et faire triompher la vérité. Sans craindre. Sans craindre. Voilà pourquoi Jésus a gardé le silence. Voilà pourquoi la vérité a été sacrifiée, pour faire de nous les témoins de la vérité, sans craindre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où il est de plus en plus difficile de discerner la vérité. Si vous savez ce que c'est que les fake news, ce sont des mensonges sur Internet avec l'intelligence artificielle. On peut faire passer des images, des mensonges vraiment difficiles à identifier. On en parle beaucoup ces temps-ci. Des fake news, des mensonges qui sont de plus en plus réalistes à l'apparence, aussi bien visuellement que dans ce qu'on peut entendre. Alors on a besoin aujourd'hui de discerner la vérité au milieu de tous ces mensonges. Eh bien, nous pouvons, nous, être des témoins de la vérité dans ce monde en étant des témoins de Jésus, en témoignant de Jésus. Comment témoigner de Jésus dans ce monde? Eh bien, votre voix, notre voix, aussi petite soit-elle, peut faire changer les choses. Lorsqu'il y a parfois des lois qui nous semblent vraiment aller contre la volonté de Dieu, nous pouvons réagir pacifiquement. Par exemple, en écrivant un courrier respectueux aux autorités pour leur dire « Attention, telle loi qui vise les enfants n'est pas bonne. » Respectueusement. Nous pouvons être des témoins de Jésus par des réactions pacifiques pour défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les enfants, qui sont très souvent la cible de l'ennemi. Et nous pouvons expliquer notre position de chrétien dans ce monde qui a tellement besoin de vérité. Jésus a été victime des pires injustices. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, on a dit des mensonges sur vous. Quelle attitude avoir quand on dit des mensonges sur vous? Sur votre personne, j'entends. Eh bien, si nous sommes victimes d'injustices, de mensonges, de fausses accusations touchant notre personne, je précise, imitons Jésus. Jésus, là, il a gardé le silence. Ça ne veut pas dire qu'il aimait être malmené, être l'objet de mensonges. Imitons Jésus dans le sens que Jésus comptait sur Dieu pour le défendre. Il y a une grande différence. Jésus a accompli ce qu'il a prêché au sermon sur la montagne. Si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Pas par masochisme. Mais là encore, c'est compter sur Dieu pour nous défendre. Jésus a attendu l'autre jour, il a accompli ce qu'il avait dit sur le serment sur la montagne. Quand il s'agit de notre propre personne, laissons Dieu nous défendre. Par contre, si nous sommes accusés d'être chrétiens, n'oublions pas, nous sommes des témoins de Jésus. Jésus n'a pas gardé le silence quand il s'agissait de témoigner de son Père. Nous sommes des témoins de Jésus. Si nous sommes accusés d'être chrétiens, disons pourquoi. Jésus n'a pas gardé le silence quand il a témoigné de son Père. Ne gardons pas le silence pour témoigner de Jésus. Disons pourquoi nous sommes chrétiens. Nous suivons le meilleur Père qui soit, nous suivons le Fils de Dieu, celui qui nous a révélé le Père, celui qui nous aime, celui qui a sacrifié sa vie. Pierre a été reconnu malgré lui comme disciple de Christ à sa façon de parler, nous dit le texte. Comment réagissons-nous lorsque, au travail ou en famille, est-ce que nous craignons d'être reconnus comme des chrétiens ? Est-ce qu'on craint d'être reconnus comme des chrétiens à notre façon de parler, à notre façon de vivre ? Celui-là, celle-là, il ne fait pas tout à fait comme tout le monde, il ne se mêle pas aux moqueries de bas étage, est-ce qu'on se mélange à la foule pour passer inaperçu ? Est-ce que nous avons déjà renié le Seigneur par nos actes, nos paroles, aussi bien que nos silences, parce que nous n'avons pas veillé et prié suffisamment, au lieu d'être des témoins de Jésus ? Si c'est le cas, repentons-nous et Dieu nous pardonnera. Tout en faisant attention, le reniement de Pierre, il est relaté dans les 4 évangiles. C'est justement une bonne raison pour nous mettre en garde. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, une autre raison de veiller, 1 Corinthiens 10, verset 12, l'apôtre Paul nous dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Quand tout va bien avec le Seigneur, on marche main dans la main avec lui, juste continue. Et attention de ne pas compter trop sur toi, mais sur le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous fait des promesses. Dans la lettre d'Épître de Jude, chapitre 1, verset 24, c'est une promesse que le Seigneur nous fait. Il est dit à celui qui peut nous garder de toute chute. Dieu peut nous garder. C'est possible de résister au mal. Bien sûr, il faut regarder à lui. Pas à nous. Comptons sur le Seigneur. Ne comptons pas sur nous-mêmes, comme l'a fait ici l'apôtre Pierre. Mais sur le Seigneur, dans la foi et l'humilité. Jésus n'a pas abandonné l'apôtre Pierre, malgré tout ça. Mais au contraire, il l'a instruit. Alors, nous n'avons pas à craindre quand il s'agit de témoigner de Jésus. Jésus n'a pas eu d'avocat. Pourquoi il n'a pas eu d'avocat ? Pour être notre avocat. Pour être notre avocat si nous sommes accusés injustement. Jésus est Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Le seul qui peut le défendre, c'est Dieu. Mais nous aussi, nous avons besoin d'être défendus. Jésus ne s'est pas défendu pour nous défendre si nous sommes faussement accusés, pour que nous comptions sur lui, sur Jésus comme lui a compté sur son Père pour le défendre. Jésus ne s'est pas défendu pour être notre avocat et pour nous défendre si nous sommes accusés faussement, injustement. Comme lui a compté sur son Père pour le défendre. Alors vous avez vu dans ce passage les questions de mauvais exemples. Hein. Tout le Sanhédrin a suivi le souverain sacrificateur qui voulait la mort de Jésus. C'est aussi une exhortation pour nous à faire attention. Attention aux pressions de groupe. C'est souvent dans les pressions de groupe que se passent les chutes. Très souvent, quelqu'un qui n'a pas goûté à la drogue, il ne va pas avoir le courage de dire non quand il y a plusieurs qui commencent à toucher à ça. Attention aux pressions de groupe. Qu'est-ce que c'est qui va nous garder ? C'est notre foi personnelle en Christ. C'est notre foi personnelle en Christ, si nous l'entretenons, c'est notre foi personnelle en Christ qui peut nous garder des mauvaises pressions de groupe. Et là, Il faut faire mieux que Pierre. Suivre Jésus, mais de près, pas de loin. Si on ne suit pas Jésus de près, en veillant et en priant, surtout dans l'épreuve, on risque de suivre les mauvaises personnes. Le Sanhédrin et la servante ont suivi le souverain sacrificateur mauvais. Pierre a suivi Jésus, son maître, mais de loin. Dans le passage qui suit, il est question de Pilate. Lui, il a suivi qui ? Lui, le détenteur de l'autorité romaine, il a suivi la foule. Suivons Jésus de près pour être gardé des mauvaises pressions. Je vais prier. Oui, Seigneur, quand je réalise, Seigneur, tout le chemin que tu as parcouru, quand tu as quitté ton ciel pour venir vivre notre vie ici sur terre, Seigneur, à la différence que toi, tu n'as jamais péché. Seigneur, tu as souffert, Seigneur, physiquement, tu as été battu, tu as été giflé, tu as été insulté, tu as été moqué. Et tu as compté sur ton Père pour te défendre, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette attitude de compter sur toi, Jésus. Tu es notre avocat, Seigneur. Toi qui n'as pas eu d'avocat à ton procès, c'était pour que tu sois notre avocat, toujours avec nous, Seigneur, dans les injustices. Tu sais combien, Seigneur, on est dans un monde rempli de mensonges. Et parfois, Seigneur, oui, on peut être révolté, mais tu nous dis heureux, vous qui avez soif de justice, car vous serez heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Seigneur, tu es la vérité, aide-nous à discerner le vrai du faux dans cette société pétrie de mensonges, Seigneur, avec tout ce qu'on peut voir sur les écrans, tout ce qu'on peut entendre. Aide-nous vraiment à discerner le vrai du faux. Et donne-nous, Seigneur, la bonne attitude dans les difficultés. Seigneur, lorsqu'on se sent victime d'injustice, aide-nous à faire la part des choses quand il faut se taire et quand il faut parler, Seigneur. En étant toujours, Seigneur, prêt à nous défendre contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Seigneur, en témoignant de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que Pierre, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont précédés. Mais merci parce que, Seigneur, par ton œuvre à la croix, Seigneur, tu as enlevé la séparation qui nous séparait de toi. Et tu es toujours avec nous. Aide-nous à nous en rappeler au nom, et à veiller et à prier au nom de Jésus.